Bulles et reportages, principe actif.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeudi 13 février dernier avait lieu à l'initiative du Diable au Corps, aux Trois Pièces à Rouen, une soirée de rencontres et de discussions avec le dessinateur de BD Alessandro Pignocchi. Alessandro Pignocchi a cheminé dans les villages Jivaro d'Amazonie, sur les routes de Seine-et-Marne et entre les barricades de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Des rencontres de ces différents mondes ont émergé, une série de BD à l'humour absurde et cynique. Sur fond de désenchantement et de crise écologique, Alessandro et ses mésanges questionnent l'opposition entre nature et culture, en dessinant un univers où les plantes et les animaux trouvent leur place au milieu des interactions sociales. Il nous invite à penser dès maintenant à une nécessaire recomposition.
On ne connaît pas son travail, c'est une pure découverte ce soir, c'est la première fois qu'on vient. On a eu l'info par un ami.
Et vous savez un peu de quoi on va parler ce soir ?
En fait, dans la vie de tous les jours, on est jardinier, donc du coup, c'est plutôt le thème qui nous a dit quelque chose, quoi. Donc on peut imaginer de quoi on va parler, après, en détail, non ?
Qu'est-ce qui vous parle dans le thème, justement ?
Le rapport à la nature en ville, je pense. Enfin, de toute façon, je crois que c'est ça, même, le thème. Et nous, on travaille essentiellement en ville, donc... On va voir un peu le regard extérieur qu'il peut y avoir par rapport à ça, justement.
Et on cherche aussi des arguments pour discuter avec nos collègues, justement, de ce rapport à la nature. On ne trouve pas forcément évident dans notre travail en milieu urbain.
C'est quoi, justement, vous, votre rapport à la nature ? Vous me parlez de ça, alors comment vous le vivez, vous l'interprétez ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Dans notre métier ?
Dans votre métier ou votre vie, plus globalement ?
Moi, je vais plutôt parler dans le métier. Je trouve que le rapport à la nature, il est pas du tout en phase avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on va tailler les pelouses à fond, tout assez souvent. On va aller tailler des haies avec des tailleux thermiques. On va pas respecter le végétal. Il faut que ce soit beau, faut que ça fasse propre. Donc la nature n'est pas sale. Enfin, voilà le rapport qu'on a. Et c'est vrai que on est jeune dans ce métier-là, on travaille avec des anciens qui ont cette expression-là, faut que ça fasse propre. Moi, je trouve que c'est complètement paradoxal.
Ouais, ça en dit long, justement, sur le rapport des gens à la nature. Il faut que ça fasse propre, comme si la nature était sale. C'est un peu ça qui...
C'est complètement dérangeant, parce que ça ramène à de la propreté, en fait. À le fait que... une terre puisse être salie, qu'une plante puisse être sale, et ça c'est pas vrai, quoi. Une pelouse qui a des fleurs, qui contient des fleurs, c'est sale, quoi. C'est quand même étrange, c'est paradoxal quand même, alors que non, c'est complètement naturel. Et je pense que nous, notre rapport à la nature dans notre boulot, il est naturel, en fait. On va aborder la nature dans des espaces où on va la laisser se propager quelque part. Et je pense que c'est ce qu'on attend un petit peu maintenant des végétaux en ville, quoi. Et la place des végétaux en ville, du végétal en ville, c'est là où elle doit être, je pense. Faut la repenser pour pouvoir en profiter différemment, en fait.
Il faut beaucoup travailler sur la tolérance des citoyens. C'est-à-dire que quand ils voient la pousse pas tondue, pour eux, ça fait sale. Mais nous, quand on va la tondre, on a l'impression de la massacrer parce que on retire la nourriture aux insectes, on bousille la biodiversité, les oiseaux, les petits insectes, tout ça.
Ça, si on peut résumer, la vie, elle a besoin aussi d'être sale.
c'est un peu l'anarchie. Après, il y a le rapport du jardin à la française. Ça, c'est vraiment c'est horrible parce que il faut que tout soit carré, tout soit. Et justement, la nature est très anarchique. Et on la respecte pas dans ce sens-là. Le jardin en anglais, il y a un peu plus de respect. C'est un peu plus fouillis, un peu plus flou, il n'y a pas de ligne droite, c'est des courbes, voilà.
Donc, comme vous me disiez, vous étiez venu aussi chercher un peu des arguments supplémentaires pour expliquer aux gens que la nature, c'était pas un truc aseptisé et tout propre, et que la vie, ça partait un peu dans tous les sens.
Ça, et du réconfort aussi, je pense, beaucoup, parce que parfois, c'est un peu compliqué, et on peut être vraiment frustré de ce qu'on fait.
beaucoup de gestes qui sont en contradiction avec ce qu'on pense. On a besoin d'arguments, peut-être pour argumenter avec nos collègues, nos chefs, etc. Et même aux citoyens qui vont nous dire « Ah, c'est sale !» Et ben non, il faut qu'on réponde « Non, c'est pas sale, c'est un pissenlit, il va nourrir, il va servir à autre chose, il fait partie d'un écosystème. »
Dernière chose, parce que là, on parle justement de un peu de votre porte d'entrée qui est votre métier. Vous travaillez où et comment, en quelques mots?
Je sais pas si on peut trop dire d'où on travaille, je pense que c'est un peu compliqué de le dire là.
Okay. Mais dans le cadre un peu général, ce qu'on a le droit de dire.
On travaille dans les villes, quoi. Majoritairement, ouais. Dans les villes.
Pour la commune et notamment pour les espaces verts, c'est ça que je comprends.
Pour les espaces verts, ouais.
Très bien. Merci à tous les deux.
Du coup, bah, c'est cool parce qu'on pensait pas qu'il y aurait autant de monde. On est quand même content que tout le monde soit à peu près assis. Peut-être que si ça continue à battre son plein, on va manquer de place. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment chouette. Pour replacer un peu l'événement de ce soir, en gros, on voulait juste rappeler que cet événement-là, il est organisé par un petit groupe qui s'appelle Tout Brûle Déjà. Ce petit groupe-là, en fait, se réunit là depuis à peu près 3 mois, régulièrement. Et c'est un groupe qui s'est constitué autour d'un constat un peu d'impuissance écologique. Et notamment, en tout cas, il y a 2 constats qu'on partageait tous ensemble, qui étaient à savoir, un, que la catastrophe écologique qu'on nous promet ou qu'on nous dessine dans plusieurs horizons, on sait jamais trop lesquels, et ben en fait, pour nous, elle est déjà là, et que finalement, la question, elle est plus tant de savoir qu'est-ce qui nous attend et comment on s'y prépare, mais plutôt de savoir comment on s'y confronte d'ores et déjà, quoi. Et le deuxième constat qu'on partageait tous, c'était que les luttes écologistes actuelles, elles ont tendance un peu à s'enliser dans une impuissance qui est en partie liée à leur incapacité, voire à leur refus d'identifier clairement leurs ennemis, quoi, et qui ils ont en face d'eux. Et du coup, voilà, ça produit des trucs... Aujourd'hui, enfin, on va dire les modes de lutte écologique massifs qui nous sont proposés, c'est soit une écologie des petits gestes, un petit peu molle, on va dire, qui prône un peu l'individualisation des actes et qui met en évidence aussi le fait qu'on n'est pas aujourd'hui, qu'on n'envisage pas la lutte collective. Et deuxième chose, c'est un peu une espèce de croyance dans les institutions un peu salvatrices, typiquement le truc de la transition écologique, de penser que, toujours soumise à cette sphère économique, l'écologie pourrait trouver sa place là-dedans dans un monde vraiment capitaliste, quoi. Et voilà, et du coup, nous, face à ces 2 constats-là, on s'est dit, en fait, nous, ces trucs-là ne nous vont pas. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Vous voyez, ce qu'on peut opposer à ça, c'est, là je vais reprendre une petite expression qui a été employée par des amis canadiens, qui est, enfin, ce qu'on pourrait opposer à ça, du coup, c'est une écologie de la présence, c'est-à-dire une écologie que nous on pourrait dire l'écologie des ronds-points ou l'écologie des ZAD, c'est-à-dire des points de cristallisation, des endroits où on va habiter des espaces, où on va cultiver des expérimentations. Voilà, et du coup, bah, pour vivre un peu ces expériences-là, ça nécessite aussi de re-questionner tous ensemble notre rapport au monde, nos interactions avec le monde vivant et le monde non vivant. Et également, pour parler de notions un peu plus abstraites et théoriques, de sortir du dualisme nature et culture qui construit un peu notre pensée occidentale. Du coup, ça, ce sont des notions un peu universitaires qu'il est tout à fait capable d'incarner ou d'habiter dans des endroits et à travers des expérimentations. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire venir Alessandro, qui lui a un peu baroudé du côté de l'Amazonie, du côté de la ZAD aussi, et qui s'est un petit peu coltiné aussi toutes ces questions un peu théoriques qui ont été notamment théorisées par l'ethnologue Philippe Descola, et qui en a fait quelques petits recueils de BD. Du coup, on s'était dit que c'était vraiment intéressant de le faire venir, à la fois pour nous introduire un peu à ces questions théoriques, et aussi à toutes les applications concrètes qu'on peut en faire. Voilà, j'en dis pas plus. Je lui laisse la parole et puis je me... Ok,
Merci. Vous me dites si vous m'entendez pas ou... Je comptais vraiment faire un résumé de l'argument conceptuel vraiment assez bref, de 1 quart d'heure, 20 minutes. La structure générale de l'argument que j'essaye de défendre, qui est relativement simple, et ensuite on verra dans quel sens vous voulez parler, si vous voulez qu'on approfondisse un peu des trucs théoriques, c'est avec plaisir, mais sinon je vais orienter néanmoins un petit peu la, la discussion vers une direction qui m'intéresse, vu que c'est ce sur quoi je vais commencer à réfléchir maintenant. Donc en gros, ça a été dit, la base de tout ça, c'est le travail de l'anthropologue Philippe Descola. Alors c'est pas des idées qui viennent de lui, mais il leur a donné une forme peut s'approprier assez facilement. Et l'idée de fond, c'est que le mot nature, le concept occidental de nature, qui est extrêmement évident pour nous, qu'on manipule dans plein de contextes différents, et n'est pas universel, et pas du tout même, et que l'Occident moderne est la seule culture qui s'est dotée de cette notion, de même que de la distinction entre nature et culture, et que non seulement il n'y a que nous qui faisons cette distinction-là, mais en plus c'est relativement récent, quoi. Et dès que là, une des façons un peu catchy qu'il a de présenter la chose, bon, il dit la nature n'existe pas, ce qui est une façon de dire, c'est pas quelque chose d'objectif qui est dans le monde, mais c'est une construction sociale, c'est un concept avant d'être une chose du monde. Et par exemple, en Amazonie, dans les langues amazoniennes, qui sont pourtant extrêmement nombreuses et variées, on trouve aucun équivalent du mot français, du mot européen occidental de nature. Et sans doute que si on essayait d'expliquer à un indien d'Amazonie en utilisant toutes sortes de périphrases ce qu'on entend par nature, il en aurait sans doute une compréhension assez éloignée de celle que nous on en a spontanément. Donc ces idées-là ont bouleversé pas mal de gens, parce que, et ça est dans plein de milieux intellectuels différents, parce que la distinction entre nature et culture façonne vraiment l'ensemble de notre rapport au monde, de nos institutions, des disciplines universitaires. Et elle est si évidente pour nous que c'est même pas un objet de pensée. Ça fait partie de ces choses qui sont diluées dans l'habitude, dans l'évidence. Et si on n'avait pas l'anthropologie qui nous amène des exemples de cultures qui font l'économie de ces notions-là, la pensée n'aurait même pas de prise sur elle, quoi. Mais une fois que la pensée a une prise là-dessus, donc faut savoir qu'en faire. C'est si fondamental qu'on peut vraiment partir dans toutes les directions, dans plein de directions différentes, puisque quasiment tous les concepts importants, conscients ou les structures inconscientes qui façonnent notre rapport au monde, sont pénétrés de cette distinction-là. Donc quand on se défait de cette distinction nature-culture, c'est la notion de progrès, évidemment, qui s'effondre tout de suite, la notion de travail, et même notre ontologie, ce qu'on pourrait appeler notre ontologie naïve, c'est-à-dire la façon dont on conçoit la relation entre la perception et le monde. Pour nous, ça va de soi qu'il existe un monde donné, objectif, et la perception, aidée éventuellement par des outils scientifiques, ne fait que mesurer, percevoir le monde. Pour un indien d'Amazonie, c'est exactement l'inverse. La perception construit le monde. Il n'y a pas un monde déjà donné, il est complet. Donc chaque créature qui a des modes de perception différents vit dans un monde vraiment objectivement distinct. Donc la façon dont moi je présente les choses, c'est une façon, moi je viens de la recherche en sciences cognitives, en psychologie, en gros, du coup c'est une approche relativement psychologisée. Mais il me semble que c'est une façon utile pour opérationnaliser les choses quand on a envie de se saisir de ces travaux d'anthropologie de la nature, pour répondre un peu aux questions qui ont été posées en introduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, quelle orientation on donne à l'écologie politique, et comment on identifie clairement nos ennemis et nos alliés potentiels. Et donc la façon de poser ça, c'est de distinguer deux modes de relation, deux types d'attention qu'on peut porter à l'autre, et l'autre peut être un humain, une plante, un animal, un objet. On peut soit le considérer comme un objet, justement, c'est-à-dire et lui attribuer des fonctions, et ne le considérer qu'en vertu des services qu'il peut nous rendre. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de sujet-objet. Le sujet, c'est nous, parce qu'on a en face, c'est l'objet, et c'est en vertu des utilisations qu'on fera de cet objet que cet objet acquiert une valeur. Et l'autre mode de relation, c'est une relation de sujet à sujet, où on attribue à l'autre une forme d'infériorité, éventuellement des émotions, des facultés intellectuelles, en tout cas des intérêts et un point de vue. Et ces deux modes de relation-là, on en fait l'expérience très quotidiennement, on bascule très facilement d'un mode à l'autre. L'exemple le plus classique, c'est qu'on apprend, quand on vit dans une grande ville, à considérer les SDF et les migrants qu'on enjambe à longueur de journée comme des objets, comme des obstacles. Mais il suffit de croiser un regard, qu'on nous interpelle, on nous on vous adresse la parole d'une certaine façon, et là d'un coup ça devient un sujet, une personne, et c'est assez vertigineux quand on bascule vraiment dans un autre rapport. D'un coup il y a un point de vue, on se sent soi-même regardé, et cette bascule là on l'expérimente vis-à-vis de plein alors d'animaux évidemment, où ça peut être un animal, peut être vraiment un objet d'étude, et d'un coup parce qu'on a l'impression par exemple de percevoir des signes de souffrance ou quoi, ça devient un sujet. Notre ordinateur portable, quand on a l'impression que vraiment il s'obstine à bugger au pire moment, et que vraiment il a une âme nuisible à l'intérieur de lui, et qu'on se demande comment je vais pouvoir me lui faire mal, me venger de lui, il devient un sujet. Ensuite on dit bah, en fait non, je vais pas lui verser un verre d'eau dans le clavier, c'est parce qu'en fait c'est un objet, enfin, et la bascule se fait comme ça très spontanément. Donc ce que fait le concept occidental de nature et la distinction nature-culture, c'est isoler l'ensemble des plantes, animaux, écosystèmes, milieux de vie, etc. et les rejeter massivement dans la sphère des objets. Et instaurer, imposer un mode de relation à eux qui est un mode de sujet à objet. C'est-à-dire que, en Occident, les plantes, les animaux, machin, les milieux de vie, les écosystèmes, tout ce qu'on peut mettre, toutes ces entités extrêmement variées qu'on peut enfermer dans le concept de nature, sont des objets et n'acquièrent donc leur valeur qu'en vertu de l'utilisation qu'on peut en faire. Cette utilisation peut être une utilisation récréative, hein, ça peut être s'y promener, ça peut être un parc national, mais néanmoins, l'intérêt, la valeur vient de l'utilisation qu'on en fait. Et cette relation de sujet à objet vis-à-vis des non-humains, des plantes et des animaux, se décline en Occident sous deux formes, qui est la protection et l'exploitation. On a souvent l'impression, avant de se poser ces questions-là, que la protection est l'opposé de l'exploitation, mais en fait c'est vraiment les deux facettes d'un même mode de relation, qui est une relation d'utilisation, une relation utilitariste. Et pour un Indien d'Amazonie, la relation la plus spontanée avec une plante ou un animal, c'est la relation de sujet à sujet, c'est-à-dire une relation sociale. C'est-à-dire que les plantes et les animaux ne sont pas rejetés dans une sphère autonome, mais mêlés à la vie sociale de la communauté. Donc le type d'interaction qu'on a avec eux se balaye tout le registre du social, c'est-à-dire on va négocier avec les plantes cultivées du jardin, avec les animaux de la forêt, essayer de tisser des alliances, des liens d'affection, se tromper, se mentir, se embrouiller, se venger, etc. Mais en tout cas, c'est dans le registre du social et non dans le registre de l'utilisation. Donc ce qui est important, c'est que ces deux modes de relation vis-à-vis des plantes et des animaux, on les expérimente tous, nous y compris, et tout comme les Indiens d'Amazonie, on bascule sans problème de l'un à l'autre. Notre animal domestique est généralement considéré comme un sujet. Un petit éleveur qui a un rapport affectif assez bête, etc., les voit évidemment comme des sujets. Un grand éleveur qui ne peut pas s'offrir ce loisir-là, les voit comme des objets, sans ça, il deviendrait fou, quoi. Mais en tout cas, on expérimente quotidiennement ces deux modes de relation vis-à-vis des plantes et des animaux. Mais ce qui compte, ce qui fait la différence substantielle entre le monde occidental moderne et, par exemple, une communauté amazonienne, c'est lequel de ces deux modes de relation façonne les institutions et les normes implicites qui organisent notre rapport collectif au monde. Et donc, en Amazonie, c'est socialement institué, c'est une évidence, c'est le mode de relation le plus spontané, par défaut, c'est le mode de relation de sujet à sujet, même si, ponctuellement, évidemment, les Indiens d'Amazonie peuvent considérer une plante ou l'animal comme un objet, mais c'est pas cette relation-là qui façonne les institutions implicites, implicites ou explicites d'ailleurs. Et chez nous, c'est évidemment la relation de sujet-objet qui organise l'ensemble de la science, de l'économie, de tout ce qui organise notre rapport collectif au monde.
Non, bah du coup, pourquoi vous étiez venu à cette soirée? Qu'est-ce que vous veniez chercher?
Je suis venu parce que j'en ai entendu parler par des copains qui organisaient le truc. Ce que je venais en chercher, c'est que j'avais vu 2-3 trucs sur Descola, que je comprends pas forcément très bien, mais voilà, du coup je m'étais dit ça offrirait peut-être une approche un peu vulgarisée du truc. Et puis je trouvais que les planches de BD qui avaient été mises en avant pour l'événement étaient drôles. Et je me suis dit que voilà, ça m'a donné envie de creuser un peu le sujet.
Et alors du coup, qu'est-ce que vous en retenez ?
Ce que j'en retiens, c'est que on a quand même pas mal parlé de la conception occidentale du rapport à la nature, enfin voilà. Ce que j'en retiens en tout cas, c'est que c'est un rapport qui est pas universel. Et donc ça c'est plutôt intéressant, qu'il y a d'autres façons d'appréhender ça. Puis, après il y a tout le rapport, voilà, comment le rapport à l'économie pollue notre rapport à tout ça, à l'exploitation de la nature. Enfin, du coup nature, notion en tout cas à déconstruire, j'imagine, ou quelque chose comme ça, quoi.
Et sur l'aspect bande dessinée, vous aviez déjà lu un peu des BD, vous me disiez, ou en tout cas certaines planches. Est-ce que ça vous a donné envie de lire la suite?
Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, moi, j'ai été un peu feignant. Je voulais lire les BD avant de venir. Et en fait, je me suis contenté de la feuilleter. Parce que j'avais pas le temps sur le moment où je l'avais dans les mains. Et ouais, ouais, j'ai carrément envie de continuer à découvrir ça.
Parfait, merci. Voilà. Pourquoi vous étiez venu à cette soirée?
Parce que je connais les BD d'Alessandro et que bah, je suis sensible à ces sujets. Voilà, il traduit une espèce de prise de conscience qu'il faudrait que le monde ait, et il le fait avec humour et ça me plaît beaucoup.
Et du coup, de son intervention là, de ce soir, même si vous êtes arrivé un peu tard, qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui vous a intrigué, plu, interpellé?
Que finalement l'anthropologie, c'est quand même un sujet qui est complexe et qu'il apporte quelques sources et ça donne des éléments de réflexion sur notre approche à notre environnement qui sont déjà soulevés dans les BD, mais qui sont quand même qui demandent à être fouillés.
Et justement sur l'aspect BD, là, je vois que vous avez un de vos exemplaires dans la main, là. Voilà, comment vous êtes tombé dessus? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans?
Moi, je suis un féru de BD, donc je suis tombé dessus au rayon d'une librairie et en fait le dessin m'a plu. C'est le premier truc qui attire quand même l'œil, hein. Et puis les sujets, et ce qui m'a vraiment fait le plus accrocher, c'est cette histoire de mésanges là, qui est quand même qui sont fabuleuses, et je me suis reconnu un peu dedans. J'ai reconnu des copains, donc voilà, j'ai voulu aller plus loin. J'ai acheté la première, et puis, c'est même pas la première, c'est la deuxième. Merde, petite écologie de nature, le...
ouais. Petit traité d'écologie sauvage.
D'écologie sauvage, ouais, pardon.
C'est celui que j'ai aussi.
Et qui est juste trop chouette. Et déjà, le nom est accrocheur, les dessins sont accrocheurs, les propos sont accrocheurs. Donc en fait, ouais, je suis tombé amoureux de cette BD, quoi. Ouais.
Et est-ce que vous connaissiez le travail de Philippe Descola? Ça vous a donné envie d'en lire, pourquoi pas d'aller un peu plus loin en matière d'anthropologie? Vous en parliez juste avant.
Ouais, dans les préfaces, il est cité le nom d'Escola, mais en vrai, j'ai jamais eu le temps de me pencher sur la question. Je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Hein. Ouais. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais il y a tellement d'autres sujets aussi qui méritent tous d'être abordés. Quoi. Malheureusement, il faut des fois axer les priorités.
On est tous pris par le temps.
Ouais, c'est ça. Mais néanmoins, c'est passionnant.
Nous sommes les rebelles, nous marchons libres dans la rue. La jungle nous appelle, rassemblons toutes nos tribus. Rejoins notre raya, nous ne sommes pas des soldats. Ici y a pas de chef, tous dans les mêmes galères. Nous vivons comme en Afrique, au rythme de nos musiques. La jungle nous appelle pour une vie nouvelle. Nous rejetons le système et les prisons nous attendent. Nous sommes les rebelles, nous ne nous laissons pas prendre. Nous sommes les rois de la fête, nous sommes les rebelles, sauvages et fiers de l'être. Nous sommes les rebelles, étoiles déserteurs, rejoins notre raya, étoile renégat, rejoins notre raya, et toi qui es squatteur, rejoins notre raya, et toi qui crie basta, rejoins notre raya, étoile gladiateur, rejoins notre raya, nous sommes les rois de la fête, nous sommes les rebelles.
Le niveau vraiment descriptif de la chose. Et ensuite, là, de plus en plus, y compris dans les sphères académiques, dans l'anthropologie de la nature, il y a un deuxième discours normatif qui vient se greffer là-dessus et qui nous dit que, en fait, il n'y a pas, on ne peut pas envisager d'issue un peu joyeuse, généreuse et désirable à la crise écologique sans opérer une bascule vers un monde, d'ailleurs, un monde où les plantes et les animaux sont spontanément des objets, vers un monde où on les considère collectivement comme des sujets. Et où c'est la relation de sujet à sujet qui va se mettre à façonner notre rapport collectif au monde. Donc il y a plein d'arguments pour défendre cette idée-là. Deux extrêmement basiques. Le premier, c'est vraiment pragmatique, quoi. C'est que la relation de sujet à objet, donc à deux variantes, l'exploitation et la protection, et qu'il y a une espèce de bascule dans le rapport occidental à la nature, quoi. Chaque fois qu'on est face à un territoire, on se demande est-ce que l'on protège ou est-ce qu'on exploite. Et le problème de cette oscillation, c'est évidemment que c'est pas une oscillation, vu que si on choisit de protéger, on peut toujours changer d'avis, alors que l'inverse est beaucoup plus compliqué, même si un peu de biologie de la restauration, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et du coup, par un simple phénomène quasi mécanique, cette dichotomie-là va forcément vers un monde où les espaces protégés seront de plus en plus petits. Donc, il suffit d'un petit changement dans les conditions économiques, le prix des matières premières, etc. On dit, bon, on va renier un peu sur cette réserve, etc. Et ça va vers un monde complètement saccagé, d'agriculture intensive, etc., avec des petits îlots sans doute amenés à être de plus en plus privatisés et dont l'entrée sera réservée à une élite économique et de toute façon condamnée à se réduire. Et c'est très précisément ce qu'on observe, évidemment. Et un argument un peu plus général, c'est que la relation de sujet à objet, psychologiquement, est beaucoup plus pauvre que la relation de sujet à sujet. Quand on considère l'autre comme un sujet, on engage des facultés cognitives, émotionnelles, empathiques, etc., et beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que la relation de sujet à objet, où là on fait simplement un calcul utilitaire en termes de coûts-bénéfices que peut me rapporter l'autre. Et donc pour avoir des relations affectives un peu denses et intéressantes au territoire et à ses habitants non humains, c'est évidemment beaucoup plus le cas quand on les considère comme des sujets. Quoi. Le monde en gros est plus agréable à habiter, plus dense, plus joyeux si spontanément, pour un collectif, les non-humains sont des sujets. Et j'en viens au troisième point, qui est que donc là quand on a dit ça, c'est juste une façon finalement un peu plus précise de formuler ce que un peu tout le monde dit, c'est-à-dire il faut changer nos mentalités, notre sensibilité, notre rapport au vivant, etc. C'est des phrases creuses qu'on entend vraiment très régulièrement, mais sans bien savoir ce que ça veut dire, ni surtout comment on s'y prend. Et sauf que parler en termes de sujets et d'objets, ça donne une direction, c'est-à-dire que pour basculer vers un monde où les non-humains sont des sujets, ça nécessite de faire sauter un certain nombre de verrous, et ils ne sont pas des moindres. Et le principal d'entre eux, le plus terrible, c'est le mythe de ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'indépendance des faits économiques, en gros l'économie, quoi. Et la domination que la sphère économique en Occident exerce sur l'ensemble de la vie sociale. Et ça aussi, c'est propre à l'Occident moderne, quoi. Dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas de fait économique pur, quoi. Quand on échange des objets, y compris médiés par une forme de monnaie, c'est toujours plus qu'un échange économique. Ça déplace les solidarités, ça restructure le groupe, ça fait tout un tas d'effets, mais c'est pas censé être des faits économiques purs. On pourra en reparler si je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc en Occident, à partir du... Enfin, je suis pas spécialiste, mais en gros, au fil du 19e, le bouquin de référence là-dessus, c'est La Grande Transformation de Karl Polanyi, qui explique comment l'utopie libérale a œuvré à détacher les faits économiques du reste de la vie sociale et à les mettre un peu en faire une sphère un peu en lévitation au-dessus de la réalité vécue, en gros, et qui la détermine. Ça, c'est tous les clichés classiques de les points de croissance, de PIB, tous ces indicateurs économiques qui ne sont pas des outils mais des fins en soi, quoi. Ça a été instauré comme un objectif à atteindre et c'est eux qui déterminent l'organisation collective. Et le problème, c'est qu'une sphère économique autonome ne peut se nourrir que d'objets. C'est le principe même de l'échange économique, quoi. C'est qu'il faut que chaque chose soit chiffrable et interchangeable pour rentrer dans ces fameux échanges économiques fluides. À partir du moment où on attribue à l'autre un statut de sujet, il n'est plus interchangeable. On lui reconnaît une intériorité, un tempérament, etc. Donc il n'est plus chiffrable. Donc pour que la nature puisse rester une ressource, il faut que ce soit un objet. Donc ça identifie l'ennemi qui est de taille. C'est tous les acteurs qui ont un intérêt, ou en tout cas qui se battront pour entretenir ce mythe de l'autonomie des faits économiques. Donc ils sont nombreux et puissants, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et par contre, du coup, ça évidemment, cette façon de poser les choses disqualifie d'emblée toute forme de lutte prétendument écologique qui accepte les règles du jeu économique. Donc ça jette évidemment aux ordures toute la croissance verte, l'écologie des petits gestes, tout ce qui s'inscrit dans un jeu économique, dans le jeu économique actuel, sans le remettre en question, et au mieux inopérant, plus probablement néfaste. Il y a même un exercice de pensée tout simple pour démontrer un peu plus précisément ça, c'est qu'on a l'impression qu'il faut chercher une énergie propre, moins polluante et tout, mais si on imagine que d'un coup on découvrait une énergie absolument non polluante et infinie, et qu'on l'injectait dans le jeu économique tel qu'il est structuré aujourd'hui, ça évidemment multiplierait par 1000 la vitesse de la dévastation, de l'artificialisation des terres, etc. Et l'autre conséquence de ça, c'est par contre qu'une lutte sociale, à partir du moment où elle s'en prend à l'autonomie de la sphère économique, c'est-à-dire à partir du moment où on essaie de s'organiser collectivement en échappant au moins en partie aux logiques de profit, en gros, quoi, en réinstaurant des relations d'entraide, par exemple, au premier plan, comme c'est le cas sur une ZAD, en s'échangeant des choses à prix libre, et plus généralement en soumettant tous les moyens de production, non plus à des logiques de profit, mais à ce qui est, en gros, collectivement désigné comme souhaitable et désirable sur un lieu donné, eh ben on devient, par la force des choses, une lutte écologique. Quoi. En tout cas, c'est le premier pas. Et donc, c'est là que je vais vous laisser la parole et orienter un petit peu la conversation dans ce sens-là, avec la question que je commence à poser. Moi, ça me semble relativement évident comme argument que ça fait presque une sorte de package idéologique. Quoi, qu'à partir du moment où, en tant qu'humain, on dit on ne veut plus être des objets interchangeables, jetables, dont la seule valeur dépend de notre inscription dans un jeu économique, ce qui a été très vite le cas, il me semble, de la lutte des Gilets jaunes, quoi, de genre, s'extraire des logiques économiques, les mettre en tout cas un petit peu à distance, presque automatiquement, on en vient à développer une sensibilité écologique, en gros, en tout cas, à vouloir étendre. Puisque nous, on ne veut plus être des objets, c'est pas tolérable non plus pour les non-humains. Ça va de soi qu'on va étendre cette mise à l'écart du jeu économique à l'ensemble des êtres qui, pour l'instant, sont rejetés dans la sphère de la nature. Et donc là, très récemment, j'ai essayé de motiver un peu toute la... Je sais pas si... Vous les connaissez ou pas, quoi, toute cette petite bande d'intellectuels qui élèvent de Descola, qui sont des gens très intéressants. Donc il y a Baptiste Morisot, par exemple, qui a sorti récemment Manière d'être vivant, Anastasia Martin, Vinciane Després, d'une certaine façon Pierre Charpentier. Il y a tout un tas de gens qui répètent tous, à longueur de médias et d'interviews, qu'il faut aller vers un monde où les non-humains sont des sujets et non plus des objets, il faut changer notre relation, mais sans jamais dire que, en tout cas publiquement, que la sphère économique empêche. Si on dit ça dans le vide, c'est complètement inopérant, parce que tant qu'on est pris dans des logiques économiques, ce déplacement-là est vraiment conceptuellement infaisable. Quoi. Il y a une incompatibilité de fond entre un jeu économique surplombant et tisser des relations de sujets. Donc j'ai essayé de les motiver à écrire une tribune un petit peu virulente, en tout cas qui fasse entrer un peu de conflictualité dans le monde universitaire là-dessus. Et ils n'étaient pas d'accord, mais pas sans doute pas vraiment, pas par pudeur ou par peur de. Mais cet argument comme quoi un mouvement social qui s'en prend, qui identifie le jeu économique, en tout cas une certaine forme de jeu économique comme ennemi, que par la force des choses il devient écologique, ça les convainquait pas. Ils m'ont dit prouve-le nous en faisant une ethnographie du truc, quoi, en allant interroger comment des gilets jaunes en sont venus à se considérer écolo, alors qu'à l'origine le mouvement a été présenté par le pouvoir comme l'anti-écologisme absolu, quoi. Ou comment on disait des mouvements autonomes, ou le mouvement ou sur les ZAD, comment des gens, ça va de soi qu'on est écologique dans le sens où on ne veut plus considérer les non-humains comme des marchandises. Et c'est le cas de plein de gens, notamment à Notre-Dame-des-Landes, qui pourtant n'ont aucune sensibilité écolo à la base, quoi, qui se désintéressent complètement, qui n'ont aucune connaissance naturaliste, qui ne sont pas du tout venus à ça par cette voie-là. Donc ça, c'est une... J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous avez des exemples, si cet argument-là vous semble... valable, parce que en tout cas pour les ethnologues et philosophes à qui j'en ai parlé, ça semblait pas du tout aller de soi que une certaine forme de lutte sociale se mutait forcément en une forme de lutte écologique. Et bon, et par ailleurs, n'importe si vous voulez. Je suis passé très vite sur Descola, mais si vous avez envie de rentrer un peu dans ces trucs théoriques, les ontologies, etc., c'est avec plaisir aussi. Mais du coup, je m'arrête là pour la présentation. Vas-y.
Alors, moi, ça me pose question quand tu dis que, en fait, la protection, c'est le même type de relation que l'exploitation. Parce que je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui travaillent dans ces milieux de la protection et qui considèrent la biodiversité comme ayant une valeur vraiment intrinsèque. Enfin, et ils la protègent pour sa valeur. Et aussi, c'était comme si, en fait, on considérait que... Enfin, en fait, si tu prends un écosystème, t'as aucune espèce dans le monde qui est partout, dans tous les écosystèmes. Et en fait, l'homme fait ça, au final, alors qu'il y a des espèces qui ont besoin, par exemple, d'aucune présence de l'homme. Enfin, il y a certains oiseaux, les tétras. S'il y a un homme qui passe, c'est la couvée est finie, enfin, voilà. Et du coup, il y a aussi des gens qui font ça de façon très désintéressée. C'est vraiment une question sujet à sujet. Et puis aussi, est-ce que c'est pas bien de ne pas être partout comme toutes les espèces le font en fait
Évidemment, mais en fait, c'est. Tu as raison, quand je présente ça, il faut que je sois plus clair sur ce que je dis sur la protection, parce qu'à chaque fois, ça me revient. Là, c'était vraiment. Quand je dis que la protection, c'est l'autre facette de l'exploitation, c'est à l'échelle institutionnelle. Quoi. Enfin, c'est pas à l'échelle des comportements personnels, c'est comment c'est dessiné par les institutions. Mais évidemment qu'un gardien de parc, des gens qui bossent là-dedans, ont des rapports affectifs avec le lieu, etc. Évidemment aussi que faute de mieux, il vaut mieux protéger quand on peut. Quoi. Et c'est pas du tout pour jeter aux orties la notion de protection, c'est juste pour dire la façon dont elle est institutionnellement pensée, elle a ces deux conséquences-là, qui sont un appauvrissement des relations à leur parc pour les gens qui sont impliqués là-dedans. Mais par exemple, un promeneur qui juste fréquente le parc naturel, protège l'air protégé sans se poser aucune question, etc. Même si ponctuellement il peut établir une relation de sujet à sujet avec une marmotte parce qu'il a les vis à côté de son terrier et qu'il se passe d'un coup un truc, néanmoins la relation spontanée par défaut avec laquelle tu vas rentrer là-dedans, c'est un tableau à observer par exemple, à contempler. D'ailleurs, tu as toute une liste d'interdits en rentrant dans un parc où vraiment tu peux pas sortir du chemin. C'est là la fonction qu'on lui attribue, c'est une fonction récréative, contemplative, néanmoins t'as une attribution de fonction. Et du coup, voilà, c'est opposer ce modèle-là. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout pour condamner les acteurs de la protection et les militants qui, ou n'importe quelle personne qui a investi là-dedans. Mais c'est pour montrer ouais, qu'à l'échelle, en tout cas, d'une séquence historique, à l'échelle institutionnelle, si t'as que ce choix-là, exploitation et protection, ça dessine forcément un monde dévasté avec des îlots qui sont amenés à se réduire. Et aussi les institutions dans lesquelles on baigne depuis la naissance, etc., nous apprennent à considérer les non-humains comme des objets, éventuellement qu'on contemple, éventuellement qui ont une valeur énorme, mais néanmoins qui reste une valeur attribuée par nous. Quoi. Et là aussi, il s'agit de défaire ça. Maintenant, l'autre partie de la question, c'est dire ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des humains partout. Quoi. La notion de vivre avec, l'idée de fond, c'est qu'il ne faut pas aller vers un rapport distancié où on protège, mais un rapport beaucoup plus intégré où on vit avec. Donc le modèle le plus parlant chez nous, c'est celui de la ZAD. Quoi. C'est où ça va de soi pour tout le monde sur une ZAD que les prairies, la forêt, etc. Sont des sujets, des voisins en gros, et que quand on prend des décisions collectives, on les inclut quasiment dans le processus de décision. Quoi. Personne à Notre-Dame-des-Landes ferait appel à un argument type service écosystémique pour prendre une décision vis-à-vis de la forêt de Roanne. Donc c'est ça que ça veut dire mêler à la vie sociale. C'est genre, ben, j'aimerais bien construire là, ouais, du coup il faudrait faire pâturer cette prairie, mais ça va faire chier le triton, enfin, ce machin. C'est mêlé dans les négociations de comment on partage un monde commun avec des humains et des non-humains. Mais peut-être que dans ce processus de diplomatie, comme dit Morizot, où on essaye de se demander comment avoir des relations diplomatiques de bonne entente avec les non-humains, il s'avère que pour un certain nombre d'espèces, de lieux, de territoires, il faut simplement prévoir des zones où on ne rentre pas. Donc, évidemment, l'exemple des tétras ou des lagopèdes à la montagne, effectivement, si tu as un randonneur qui passe à côté en hiver, il perd 90% de ses réserves et en meurt, évidemment, si c'est ça son rapport au monde, sans doute qu'il faut envisager de lui. Et chaque Morizo va venir sur la ZAD bientôt, il veut défendre l'idée de mettre 10% de la forêt de Roanne en libre évolution, par exemple. Je ne sais pas comment il va réussir à défendre ça, mais c'est en tout cas, évidemment, c'est inclus dans ce processus-là. Dire qu'il faut sortir de la logique de protection ne veut pas dire qu'on ne peut pas décider collectivement que justement, le sort le plus désirable pour ce petit morceau de forêt sera d'être en libre évolution.
En plus, dans les populations en Amazonie, il y a aussi des zones, enfin, ce qu'on appelle les zones tabous, les zones enfin, où en fait, les gens ne rentrent pas forcément. Enfin, et ça permet aussi de restaurer. En Amazonie, il y a des zones tabous où les gens ne rentrent pas, les humains ne rentrent pas parce que. Alors, je ne vais pas crier non plus.
Alors, pas chez les tabous. Ouais. Je connais pas
les deux populations où ça existe, okay. En fait.
Les ethnies que j'ai fréquentées, donc, bah, en Équateur, au Pérou et en Bolivie, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais encore une fois, c'est des populations tellement dispersées sur des espaces tellement vastes que la question vraiment se pose pas du tout. Mais en tout cas, chez nous, ça n'empêche, c'est complètement cohérent d'envisager ça, évidemment.
Moi, je veux bien poser une question qui ressemble un peu à la sienne, mais qui, en fait, c'est peut-être un autre type d'invitation en termes de réponse. Parce que j'ai l'impression qu'évidemment, à t'écouter, c'est évident que même si on peut considérer que et l'exploitation et la protection, ça participe d'une même logique d'objectivation, en quelque sorte, de la nature, il est préférable de la préserver que de la protéger que de l'exploiter. Mais tout à l'heure, tu parlais un peu de conflictualité. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça oblige pas, c'est ça l'autre réponse, de reconnaître qu'il y a une partie de la pensée écologique, sinon peut-être même la pensée écologique à la base, qui est quand même prisonnière de ce rapport à la nature, de cette constitution de la nature comme objet, et qui dans ce rapport suppose effectivement des mesures, des relevés, des tableaux, etc. Et que dans ce cas-là, peut-être qu'au sein même de la pensée écologique, il y a une espèce d'opération à faire en mettant en avant le fait que ce danger d'objectivation de la nature, il n'est pas étranger à la pensée écologique.
Bien sûr, non, complètement.
Donc si tu pouvais nous apporter quelques éléments là-dessus.
C'est ce que tu viens de dire, en gros, moi c'était mon cas.
Et historiquement, par exemple, historiquement, dans la constitution de la pensée écologique, est-ce que tu as des éléments?
Il y a plein d'histoires différentes dans la pensée anglo-saxonne, évidemment, oui. C'est une nature sacralisée, donc il fallait sortir l'homme pour qu'il a fait assez de dégâts. Et moi, les textes d'anthropologie de la nature entre deux Descola m'ont particulièrement marqué parce que j'étais complètement là-dedans. C'était très spontané, je ne m'étais jamais posé la question, mais ça me semblait évident que l'horizon politique atteint, c'était le parc dont on exclut au maximum la présence humaine. Quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est là que l'anthropologie fait son boulot de rendre pensable des choses qui, sans ça, vraiment, étaient complètement évidentes. Mais maintenant qu'il y a tout un pan de la pensée écologiste, et en particulier celle la plus proche de la recherche écologiste, qui est prisonnière de ça et qui en souffre pour une partie de ses représentants, ça c'est complètement évident, parce que l'approche scientifique objective aussi, c'est son principe, mais par contre il n'y a pas d'incompatibilité. Enfin, un écologue qui bosse sur une prairie alpine machin, dans le cadre de son étude, va voir d'abord des. Même si maintenant il y a une partie de l'écologie qui sort de ça et qui essaye de voir des individus avant de voir des espèces. Quoi. Ça, c'est la relation de sujet à sujet, évidemment, tu peux la tisser qu'avec un individu, c'est pas avec une espèce en général, donc ça contraint. Mais néanmoins, évidemment que le regard scientifique objectif. Mais par contre, tu peux tout à fait. Travailler sur des espèces et avoir des relations. Alors ça dépend ce que tu dois leur faire, mais en tout cas a priori avoir des relations affectives complexes avec elles, même si c'est pas ce que la science encourage, mais il n'y a pas d'incompatibilité, quoi. Tu perds pas tes facultés de recherche, au contraire, si tu commences à avoir des sujets dans des plans. La vraie incompatibilité, elle est avec l'économie, quoi. Parce que là, quand tu commences à avoir des sujets, c'est tout qui s'effondre, tu peux plus les interchanger. Mais par contre, la science là, c'est tout à fait opérant. Mais que, moi j'ai plein d'exemples autour de moi, d'amis chercheurs en écologie, etc., et qui voient bien que un truc déconne dans la protection, pensée à l'occidental, dans le principe de petit parc, souvent isolé, machin, donc après on se dit qu'il faut faire des couloirs, mais néanmoins il y a quand même une séparation, et qu'il y a quelque chose de pas extrêmement kiffant dans l'idée d'un monde fait d'immenses champs de monoculture où il n'y a pas une mouche et des tout petits îlots pour riches. où ça sera luxuriant et on aura le droit d'absolument rien faire à part les contempler de l'Union 1. Donc, mais par contre, tant que tu n'as pas les outils que t'apporte tout ce courant de pensée qui vient de l'anthropologie de la nature, c'est difficile de remettre en question ça.
Du coup, c'était voilà, savoir un peu ce qui vous avait amené à cette soirée.
Par des amis, d'ailleurs, par un ami qui m'a dit que son Repignotif venait ici ce soir, parce que j'ai lu d'autres ses BD, et puis j'ai bien aimé ce qu'il y avait dans les BD, et puis voilà, et je suis venu aussi pour parler un peu, se retrouver aussi avec d'autres gens, pour aussi reparler écologie, entre autres, quoi.
Qu'est-ce que vous en avez retenu un peu de, voilà, des discussions, de l'intervention d'Alexandre Pignocchi ce soir, voilà, de ce qu'a pu se dire?
Ce que j'ai retenu surtout, c'est que j'ai appris des choses. J'ai appris, par exemple, ce qu'il expliquait sur le sujet, l'objet, des choses que je connaissais pas du tout parce que je m'étais jamais intéressé à ce sujet-là, je connaissais pas. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et au niveau intellectuellement parlant, c'était bien. Après, à part ça, c'est tout.
Ça vous a donné envie de vous intéresser à certains anthropologues, dont Descola, dont il a parlé dans la soirée? Pourquoi pas d'ouvrir un bouquin, ou en tout cas d'en savoir un peu plus?
Non, par rapport à Descola, ça m'a pas trop donné envie, vu ce qu'il a dit à la fin.
Il a dit que c'était un peu compliqué.
Alors, si lui, il dit que c'est compliqué, je pense que je vais pas ouvrir un livre. Par contre, il disait qu'à l'oral, ça a été plus compréhensible, donc je pense que je vais sûrement aller jeter un oeil sur Internet, voir ce qu'il disait à l'oral, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il peut dire. C'est effectivement, c'est quand même une sommité dans son domaine, et je connaissais de nom, mais je sais pas ce qu'il disait, ce gars-là. Donc ouais, je pense que j'irai voir un peu plutôt à l'oral.
Et sur les BD d'Alessandro Pignocchi, qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous plaît dans son travail?
Moi j'ai pas lu ses bouquins les plus connus, donc moi j'ai lu juste le petit traité d'écologie sauvage, donc c'est quand même complètement différent des autres. Donc c'est pas son nom, ça parle pas de la ZAD, ça parle pas de ça, ça parle vraiment d'un monde complètement barré. Enfin, c'est complètement on a Manuel Valls qui se barre complètement en freestyle à la fin du premier. Enfin, j'invite tout le monde à le lire, c'est très drôle. Mais je sais pas, moi c'est l'humour. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, mais on part sur ses théories. On est sur ses théories à lui et théories d'anthropologue qui sont vachement intéressantes, mais il nous amène ça avec de l'humour et puis vraiment complètement décalé. Donc c'est ça qui m'a plu, moi.
Du coup, moi j'en ai entendu parler à Tout brûle déjà, et j'ai lu les BD de Pignocchi. Et en fait, alors j'avais lu les BD de Pignocchi avant d'être au courant qu'il y avait La Réunion. Et en fait, ce truc-là qui développe sur la nature et la culture, ça m'intéressait. Et du coup, je suis juste venu voir s'il avait des choses en complémentarité à ajouter. Et du coup, la différence, quand il a parlé un peu de psychologie et de la notion de sujet, de relation sujet-objet et sujet-sujet, là, je pense que c'est vraiment mon gros apport de la soirée. C'est le truc qui m'a.
C'est ça un peu que vous retenez de la soirée. Qu'est-ce que vous en retenez justement de ces discussions?
Tu me parles vachement comme un journaliste.
Il paraît que c'est mon métier. Hein.
Ouais, mais parle-moi normalement. C'est... j'en retiens quoi? J'en retiens. Ce truc sujet-objet.
Qu'est-ce que ça changerait chez vous?
Ah ouais,
comment vous interprétez ce truc-là?
Est-ce que tu vas parler aux arbres?
Est-ce que vous allez faire de la calinothérapie?
En fait, je vais pas aller parler aux arbres, mais de base, ça m'est déjà arrivé de pleurer en déracinant une plante, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ça me permet juste de théoriser certaines choses que je peux ressentir par moment. Et donc de comprendre comment là où vont être mes sensibilités et voir de les étendre à beaucoup plus de choses. Parce que je me dis, tu vois, c'est pas à chaque fois que je vois un arbre que je me dis ça c'est un être vivant, en dessous il y a des racines, en dessous il y a des choses comme ça, il fonctionne de telle manière et c'est génial et je trouve ça incroyable. Mais tu vois, ça me fait pas ça à chaque fois que je vois un arbre. Et le fait de que ça soit un peu théorisé, en fait, ça me permet d'étendre ça de manière générale. Je sais pas pourquoi, mais voilà.
Ça permet de mettre des mots sur certaines émotions, un certain ressenti qu'on peut éprouver face à, je sais pas, à la beauté du monde, à la beauté d'être vivant qu'on peut croiser, trop peu malheureusement sans doute dans nos villes.
Ouais, mais en soi, mettre des mots, c'est le fait que quelqu'un mette des mots dessus, je saurais pas expliquer comment, ça me permet juste de généraliser un peu ce sentiment-là. C'est tout.
Très bien. Merci.
Non, je suis venu chercher mes copains, en fait.
Ouais.
Voilà.
Passer un bon moment avec les gens qu'on aime, c'est essentiel, non?
Oui, bien sûr. Ouais, essentiel, oui, voilà.
Bulle et reportage, principe actif.